J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'émission Aléa. C'est Régis au micro et aujourd'hui je vais vous parler de Wizinga. Alors qu'est-ce que c'est que Wizinga? Si on ne se fie qu'au son que ce mot produit, Wizinga, on pourrait croire que c'est une sorte d'onomatopée qui évoque peut-être un ressort rouillé en train de se détendre. Moi personnellement, Wizinga me fait un peu penser dans sa sonorité au cri de victoire du personnage de Sheldon dans la théorie de Big Bang Theory.
Bazinga.
Mais en fait non, Wizinga ce n'est pas une chose, ce n'est pas un quoi, mais c'est un qui. Wizinga c'est une personne qui a existé, la référence incontournable dans la philosophie du jeu. Mais Wizinga, Johan de son prénom, ce n'est pas un philosophe, c'est un historien du début du XXe siècle. Il vit en Hollande, à Leyde, près de la mer, entre Amsterdam et La Haye, où il enseigne l'histoire médiévale et culturelle. Son dada, en fait, c'est l'art et le spectacle au Moyen-Âge, comme par exemple les tournois de chevaliers, qui sont en soi d'ailleurs des jeux en forme de joute. En 1938, alors que la guerre gronde et monte doucement partout en Europe, Wizinga va publier un livre qui aura un impact retentissant sur toute la seconde moitié du XXe siècle dans la philosophie du jeu. Un essai qui s'intitule « Homo Ludens sur la fonction sociale du jeu ». Alors, Homo Ludens, c'est l'homme qui joue, ou plus précisément la dimension ludique, la dimension du jeu, qui est présente dans la vie humaine, par opposition à la dimension de, par exemple, la connaissance et le savoir chez l'Homo sapiens, l'homme qui sait, et à la dimension du travail et de la construction dans la vie humaine, l'Homo faber, l'homme qui fabrique. L'Homo ludens, c'est une approche historique et culturelle du jeu. Wizinga cherche à développer, à travers lui, à travers cet Homo ludens, une analyse de tout ce qui, dans nos vies, a trait au jeu. Que ce soit les jeux de plein air, les jeux de plateau, mais aussi toutes les formes plus diluées du jeu qui existent dans notre société, comme les jeux sociaux, le fait que l'on porte un masque en société en permanence, le théâtre, mais aussi toutes les formes de compétitions sportives, ou plus généralement, toutes les compétitions qu'on peut trouver dans la vie humaine et qui suivent des règles établies. Parce que, d'après Wizinga, dans la culture humaine et dans son évolution, il y a une part importante qui est liée à notre intérêt pour les jeux. Je vous le cite ici, il dit « De longue date, la conviction s'est affermie en moi, de façon croissante, que la civilisation humaine s'annonce et se développe au sein du jeu en tant que jeu. Il ne s'agit donc pas d'étudier la place du jeu parmi les autres phénomènes de la culture, mais d'examiner dans quelle proportion la culture offre un caractère ludique. » Fin de citation. Donc si on écoute Johan Wizinga, il y a donc dans la culture humaine et dans son évolution une part importante qui est liée à notre intérêt pour les jeux. En réalité, il va même plus loin que ça. Il ne cherche pas à nous montrer que la part du jeu est importante parmi les autres phénomènes de la culture, mais que la culture elle-même, en soi, offre un caractère ludique. Il veut en fait montrer que la civilisation humaine se développe au sein du jeu, donc grâce à des jeux, grâce aux jeux sociaux, mais aussi que la civilisation se développe en tant que jeu, c'est-à-dire que tous les différents aspects de notre civilisation, que ce soit la justice, la poésie, l'organisation de l'État, les rituels, la religion, la guerre aussi, toutes ces parties de nos civilisations peuvent, sous un certain angle, être regardées comme des formes de jeu. Puisqu'il y a dans chacun de ces univers des règles, de la compétition, un but précis à atteindre, qui nous permet de dire qui a gagné, etc. etc. Donc pour Wizinga, tout peut être regardé sous la forme d'un jeu. Alors d'autres philosophes, à la suite de Johan Wizinga, sont quand même venus lui dire « Bon écoute Jojo, tu vas peut-être un petit peu trop loin quand tu nous dis que tout est un jeu. » Parce que ben, si on regarde tout ce qui nous arrive dans notre quotidien et dans le monde social, comme si c'était des jeux, alors tout est un jeu, mais aussi rien n'est un jeu. Autrement dit, le jeu perd de sa spécificité. Et on voit bien qu'il y a quand même une différence entre le fait de jouer un rôle social dans une discussion mondaine et le fait de jouer aux petits chevaux, par exemple. On n'est pas engagé dans ces deux types de jeux de la même manière. Et le jeu social et le jeu de société ont des différences qu'il est important de remarquer. Parce que c'est aussi ça, faire de la philosophie sur un objet tel que le jeu. C'est comprendre la part du jeu dans nos sociétés. Essayer de comprendre ce qu'est l'esprit du jeu. Mais c'est aussi faire des distinctions qui nous permettent d'avancer et par exemple de catégoriser les différentes formes de jeu. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une certaine lecture du monde, d'un objet comme le jeu, que le jeu nous donne à voir, il ne faut pas se perdre non plus dans cette lecture. C'est-à-dire tout voir au prisme du jeu et ne plus être capable de faire des distinctions entre ce qu'est le jeu et ce qu'il n'est pas. Quand est-ce que l'on joue et quand est-ce que l'on ne joue plus. Donc la philosophie, c'est aussi savoir dresser des distinctions depuis un certain point de vue, sans se perdre dans ce point de vue et dans la représentation du monde qu'il propose. Mais revenons à notre mouton hollandais. Pour Huizinga, le jeu est quelque chose de tout à fait étonnant, puisque c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, quelque chose qu'on trouve aussi chez les animaux. Les animaux jouent. Le jeu, ce n'est pas une activité nécessaire, on n'en a pas besoin pour survivre. Il n'y a aucune raison d'être au jeu, si ce n'est le jeu lui-même. Je travaille pour gagner de l'argent et pour m'acheter à manger. Et je mange aussi parce que mon corps en a besoin pour survivre. Mais quand je joue seulement pour jouer. Comme le dit Huizinga, je vous le cite, « L'existence du jeu affirme de façon permanente et au sens le plus élevé le caractère supralogique de notre situation dans le cosmos. Les animaux, dont nous faisons partie, peuvent jouer. Ils sont donc déjà plus que des mécanismes. Nous jouons et nous sommes conscients de jouer. Nous sommes donc plus que des êtres raisonnables, car le jeu est irrationnel, il n'a pas de raison d'être. Le jeu, c'est donc quelque chose qui s'ajoute à notre vie matérielle, à notre vie physique. Quand un enfant joue à la marelle, ou quand un adulte joue aux échecs, ils ne le font pas parce qu'ils en ont besoin. Et de ce fait, le jeu est un phénomène culturel. Mais ce n'est pas un phénomène culturel comme les autres, puisque, contrairement au fait d'aller travailler, au fait de faire ses courses, ou au fait de téléphoner à sa famille pour prendre des nouvelles, le jeu nous fait sortir du quotidien. Le jeu se distingue donc de la vie courante et il crée, pour un moment, un espace entre parenthèses avec différentes règles et différents sens. Je terminerai sur cette question en vous citant les mots de Huizinga lui-même, qui nous dit, et je vous préviens, ça va être un peu vague et mystérieux, « Le jeu, comme forme d'activité, comme forme pourvue de sens, comme moment qui se distingue de la vie courante et comme fonction sociale, voilà mon objet d'étude. » Je considère le jeu sous ses multiples formes concrètes, en tant que structure sociale. Je cherche à comprendre le jeu, à la façon du joueur lui-même, dans sa signification primaire. Si je constate que le jeu repose sur un maniement d'images déterminées, sur une certaine figuration de la réalité, alors mon premier effort sera de comprendre la valeur et la signification de ces images, ou de cette figuration même. J'observerai leurs actions sur le jeu. En ce faisant, je tenterai de saisir le jeu comme facteur de vie culturelle. Donc pour résumer un peu, le jeu c'est un élément de la culture, mais la culture a la forme d'un jeu. Donc si on étudie le jeu, on étudie la culture, et les deux s'éclairent mutuellement. Je dois vous avouer que j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, et qu'on est un peu comme face à un serpent qui se mord la queue. Mais peu importe, le livre de Huizinga, Homo Ludens, a au moins l'intérêt, et le grand intérêt, d'avoir ouvert la réflexion sur la philosophie du jeu, et d'avoir montré que les jeux sont partout présents dans notre culture, sous différentes formes.
Oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Mais c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.